La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF en partenariat avec Action Logement, les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp.
La rencontre des entrepreneurs du MEDEF de France, cette édition 2022, on est en compagnie de Pierre Mayer. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Directeur général adjoint de Clésia. On va parler vieillissement de la population avec vous, un enjeu majeur bien évidemment et qui affecte, on connaît la pyramide des âges, qui affecte elle-même les systèmes de retraite. Parlez-nous justement, présentez-nous Clésia en quelques mots.
Alors Clésia, groupe de protection sociale, paritaire, non lucratif et qui s'est constitué sur un certain nombre de secteurs clés de l'économie, la branche du transport, les hôtels, cafés, restaurants, les acteurs des métiers de la santé et puis également récemment sur santé et prévoyance, la branche de l'intérim notamment.
Ça fait combien de personnes en tout?
Alors de personnes couvertes par Clésia, ça dépend des comptages en retraite ou en santé et prévoyance, on va dire que c'est de l'ordre de 3 millions d'euros, 3 millions de personnes.
3 millions de personnes, et effectivement, après, en chiffres ou en montant collecté, redistribué.
Collecté en assurance de personnes, on est à 2,2 milliards d'euros. Si on prend tout cumulé, à la fois la retraite, qui est une activité d'intérêt général, l'activité d'assurance de personnes sur santé prévoyance, et puis tous les congés de fin d'activité qu'on gère pour le monde du transport, c'est de l'ordre de 12 milliards d'euros.
Ouais, donc c'est considérable, évidemment, et les chiffres évidemment sont toujours très étonnants et énormes dès qu'on s'intéresse à ces branches. Alors justement, on le sait, hein, je le disais en introduction, le vieillissement de la population, il est là, on va avoir de plus en plus de coûts évidemment, parce qu'on vieillit, non seulement il y a le troisième, mais il y a le quatrième âge qui concentre aussi un peu les pathologies. Comment on envisage justement ce futur chez Clésia?
Alors, l'avancée en âge de la population, pour ne pas employer le terme de vieillissement qui a toujours cette nuance péjorative, nous on a tendance d'abord à rappeler quand même que fondamentalement c'est une excellente nouvelle. On est au départ sur une bonne nouvelle qui est
on vit plus longtemps.
On va vivre de plus en plus longtemps et on va vivre de plus en plus longtemps en bonne santé, contrairement à... Il y a des études qui sont sorties récemment qui montrent que l'espérance de vie en bonne santé progresse aussi vite, je dirais, que la progression de l'espérance de vie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, évidemment, c'est une évolution moyenne. Ça veut dire qu'il y aura toujours des gens qui mourront, je dirais, plus jeunes que ce qu'ils auraient dû faire. Il y aura des gens qui vont avoir des vies, au-delà de 100 ans. Hein. On sait qu'aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs années, une fille sur deux qui naît en France va mourir centenaire. Donc c'est évidemment des évolutions qui sont des années de vie en plus. Et la question, c'est de savoir comment on les vit, comment on absorbe ce choc. C'est le choc de
D'autant que dans le même temps, excusez-moi de vous couper, Pierre, mais on parle beaucoup de cet âge de la retraite, voilà, autour de 65, 67, 63, les chiffres dans un fixé, mais ça veut dire qu'on doit, si on passe 30 ans à la retraite, on peut s'interroger aussi sur le temps de vie finalement à cotiser, à préparer ce temps de la retraite.
C'est ce qu'expliquent effectivement les défenseurs du relèvement de l'âge, c'est qu'ils expliquent au fond la retraite, attention, c'est quelque chose qui a été mis en place, pour des personnes qui en fait étaient privées par l'âge, par l'incapacité de leur force de travail, donc ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins par leur travail. Et donc, il était quelque part logique que la collectivité, d'une manière ou d'une autre, leur verse une pension de retraite. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a créé un droit qui est possible à l'âge de 62 ans, parfois même 60 ans, si on est en carrière longue. Et qu'il y a une période, on sait très bien qu'il y a une période de la vie après 60 ans qui peut être une période qui va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui peut être une période sans aucun problème de santé, sans aucune fragilité. Et donc c'est une période de temps libre. Et c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, le recul de l'âge est aussi compliqué à faire passer dans les esprits. C'est-à-dire qu'on a tous en tête cette idée qu'il y a une espèce d'âge d'or qui se passe de 60, 62 ans à, je dirais, 70, 75 ans, où on est en forme, où on peut s'occuper, on peut faire du sport,
on peut profiter,
on peut partir, etc. Bon, voilà, donc ça, cette vision un peu dorée, c'est sûr que l'évolution économique fait que forcément, des questions se posent par rapport, mais est-ce qu'on peut encore se payer ce luxe d'avoir, sur une période aussi longue, une prise en charge finalement par la collectivité.
Il y a une autre question qui revient dès qu'on parle de la retraite, c'est tout ce qui est système. On regarde du côté des anglo-saxons avec un système différent de capitalisation, c'est-à-dire qu'on va cotiser ou investir même sur des marchés financiers en particulier, pour faire grossir la pelote et en disposer à la fin de sa vie. Alors que le système français est basé essentiellement sur la répartition. Les jeunes générations cotisent pour les plus anciens, avec une pyramide des âges qui se contracte, ça va être de plus en plus compliqué.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a, en plus de l'augmentation de l'espérance de vie, on a ce phénomène du papy-boom, qui est que toutes les générations qui sont nées entre 1945 et 1975, elles partent à la retraite les unes après les autres. Et aujourd'hui, on n'est qu'à la mi-temps du papy-boom, attention. On a déjà les personnes qui sont nées entre 1945 et 1960, on va dire, qui sont parties à la retraite. Mais il reste toutes les personnes qui sont nées entre 1960 et 1975 qui sont au moins aussi importantes en nombre. Et donc, il y a ce choc à continuer à absorber. Et c'est sûr que la répartition, c'est un choix qui a été fait par la France en 1945. C'est un choix qui d'ailleurs s'est exercé à la suite de déconvenues, de dispositifs qui avaient été mis en place, de par capitalisation qui avaient été mis en place dans les années 10, dans les années 30. Bon, c'est toute une histoire très, très, très compliquée, très riche. Ce qui est toujours très amusant de voir, c'est que même si vous allez poser la question à 100 Français dans la rue et qui vont dire oh, la répartition c'est très bien, la capitalisation attention c'est les marchés boursiers, c'est etc. Ils ont un rapport personnel et individuel par rapport à la retraite qui est j'ai des sous, j'ai cotisé, donc j'y ai droit. Et au fond, ils imaginent toujours la retraite comme
Tout ce qu'on a mis dans la boîte.
Exactement. Leur cotisation a été mise dans une espèce de coffre-fort.
Avec leur nom dessus.
Le jour de la retraite, il faut ouvrir le coffre-fort et hop, je reprends ce que j'ai versé au moins. Bon, et ce n'est pas du tout ça la répartition.
Non.
La répartition, c'est il faut qu'il y ait des cotisants, jeunes ou moins jeunes, qui cotisent, qui versent des cotisations pour pouvoir payer les pensions des personnes qui sont aujourd'hui à la retraite. Voilà, on a ce paradoxe-là en France, c'est très curieux. Alors, la capitalisation, elle a quand même commencé à se développer à travers, le développement de l'assurance-vie. On voit bien qu'aujourd'hui, l'assurance-vie est quand même utilisée pour partie.
Puis le plan épargne retraite qui a été mis en place il y a 3 ans.
Et puis, bien sûr, tous les dispositifs d'épargne retraite qui ont été mis en place par les gouvernements successifs, que ça soit la loi de 2003, que ça soit effectivement la loi Pacte, qui a été une loi très importante sur le développement de l'épargne retraite et des plans d'épargne retraite.
Voilà, donc on a l'impression quand même que les Français s'en emparent. Il y a aussi des solutions, en tout cas pour investir, notamment l'immobilier. On a l'impression que les Français ne sont pas complètement démunis. On ne veut plus dépendre uniquement de sa retraite, parce qu'on entend toujours, enfin moi depuis que tout petit, on dit « j'aurai pas de retraite » et finalement le système continue.
Voilà, c'est un deuxième paradoxe ou poncif amusant sur la retraite. C'est que c'est vrai que moi, ça fait 25 ans que je travaille sur le sujet de la protection sociale, et ça fait 25 ans que j'entends que les jeunes, enfin qu'on dit que les jeunes disent qu'ils n'auront pas de retraite. Mais depuis, les gens qui disent ça,
les jeunes sont moins jeunes et on voit que le système continue.
Bon, non, boutade mise à part, je pense qu'on sera pas dans un système de toute façon de big bang, c'est-à-dire on sera pas dans un remplacement entre le 31 décembre et le 1er janvier, on change complètement de système. Ça, c'est pas possible. En revanche, qu'il y ait des inflexions, qu'il y ait des atténuations, qu'il y ait effectivement pour, la population, des cadres moyens, des cadres supérieurs, qu'il y ait une plus grande, d'ores et déjà, qu'il y ait, une plus grande mobilisation de l'épargne tout au long de la vie pour pouvoir apporter des compléments de revenus au moment de la retraite. C'est ce qui se passe aussi à travers l'investissement locatif. voit bien que le développement de l'investissement locatif tel qu'il est lieu en France, c'est aussi dans une vision de, d'assurer un revenu, un autre revenu que la retraite au moment de la retraite. Et c'est aussi vu comme un élément de transmission de patrimoine entre générations.
Bien sûr. Voilà, dernière question, c'est au niveau de Clésia, du coup. Vous suivez bien évidemment la loi, la norme législative, toujours inflation de normes, etc. Est-ce qu'il y a des grands changements que vous appelez de vos voeux? Est-ce qu'il y aura des choses à améliorer, notamment dans ce système?
Alors, sur la transition démographique, il y a une question qui est posée depuis maintenant 20 ans. Qui est plus de 20 ans, qui est est-ce qu'il faut une grande loi sur le grand âge? Parce que heureusement, on va vivre de plus en plus vieux, on va vivre de plus en plus vieux en bonne santé, mais on sait qu'il y aura une minorité, heureusement minorité, mais enfin quand même, il faut prendre en compte ça, une minorité de personnes qui vont connaître leurs dernières années de vie dans une situation de perte d'autonomie, de dépendance.
Bon.
Et ça, ça fait très peur. Il y a toute la question évidemment des EHPAD, des établissements pour personnes âgées dépendantes qui a été mise en actualité récemment. Donc la question, c'est au fond par rapport à ce risque qui existe que, on va dire, on a une chance sur 5, une chance sur 6 de finir en situation de dépendance sur une durée suffisamment longue, donc représentant un coût financier qui n'est pas négligeable. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait la puissance publique? Et surtout, qu'est-ce que font l'ensemble des acteurs économiques, sociaux, voilà. Et Clésia, groupe de protection sociale, évidemment, joue un rôle d'ores et déjà à travers ce qu'il fait sur les aidants. C'est aussi, je dirais, une prise en compte de l'évolution, de l'avancée en âge de la population. C'est une question qui est posée, donc c'est de savoir est-ce qu'il faut une loi, est-ce qu'il faut une grande loi là-dessus.
Une grande loi sur ce quatrième âge.
Parce que pour faire comprendre peut-être mieux les enjeux de la transition démographique, on parle beaucoup de la transition énergétique, on a parfaitement raison, transition environnementale, mais la transition démographique, elle existe aussi au même moment, et donc il faut en tenir compte. Et est-ce qu'on n'a pas intérêt finalement, collectivement, globalement, à avoir une forme de loi cadre qui puisse, je dirais, apporter un certain nombre de réponses, d'engagements qui seraient pris de manière collective. Voilà, c'est une question qui est posée de manière régulière.
Merci Pierre Mayer, en tout cas pour nous éclairer sur ces thèmes. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de Clésia. À très bientôt sur notre antenne.
Merci.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision. Un événement organisé par le MEDEF en partenariat avec Action Logement, les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp.